8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Au lendemain de la Journée mondiale des droits de l'enfant, je vous propose de découvrir des histoires poignantes et universelles de femmes qui, durant leur adolescence en France, ont été placées dans des maisons de correction tenues par des religieuses. Insoumises, rebelles ou simplement mal aimées, ces mauvaises filles ont été littéralement enfermées, coupées du monde, sans avoir commis le moindre délit pénal. Dans cette France qui oublie parfois son ordonnance de 1945 sur la protection des mineurs. Ces lieux d'enfermement et de discipline ont perduré jusqu'à la fin des années 1970 en France, donc c'était presque hier. La situation aujourd'hui a-t-elle vraiment changé? La question mérite aussi d'être posée quand la défenseure des droits dénonce l'état dramatique de la protection de l'enfance qui n'est plus, dans de nombreux territoires, dûment assurée. Je vous présente nos invités. Véronique Blanchard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne spécialiste de la justice des mineurs, de l'après-guerre à presque nos jours. Et vous avez publié notamment « Mauvaise fille, incorrigible et rebelle », coécrit avec l'historien David Niger. C'était aux éditions textuelles. Émérence Dubas, bonjour.
Bonjour.
Vous avez réalisé ce documentaire « Mauvaise fille » qui sort en salle ce mercredi 23 novembre. C'est un très beau documentaire. Que sont devenues ces mauvaises filles? Je le dis bien sûr avec beaucoup de guillemets, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Des femmes qui n'auraient probablement jamais été enfermées si elles avaient été des garçons. Vous êtes partie sur les traces de ces enfances, des enfances qui se sont ensuite construites sans la moindre humanité. Ce sont les récits d'Edith, de Michel, d'Evelyne, de Fabienne, et ce sont des histoires vraiment universelles de maltraitance envers des enfants.
8 milliards de voisins.
On échange.
Bonjour à tous les auditeurs des RFI.
8 milliards de voisins. On est ensemble.
La sœur, elle avait sa cellule à côté de nous. Elle avait une toute petite fenêtre, elle nous surveillait par la fenêtre. Moi, j'avais le bonnet nuit et puis j'étais rasée. J'ai toujours pratiquement été rasée. Mais rasée comme un garçon. Je sais bien que je faisais pipi au lit, mais j'y pouvais rien. Ma bonne sœur, elle m'emmenait sur le palier Tudor, là, sans lumière, sans rien. Et après, c'était un complexe. J'avais toujours peur. Me lever le matin, j'étais mouillée. On était mal vus. Et même par les filles, après. Elles prenaient modèle sur ces sœurs qui nous faisaient du mal. J'avais pas le droit de boire. On me donnait pas à boire. Surtout pas. Et vous saviez ce que je faisais? Je buvais dans le broc. Je buvais tellement j'avais soif dans le broc qui était dans les toilettes. Quand j'y repense, des fois même la nuit, je me dis, mais... t'es quand même encore là, t'aurais pu attraper n'importe quoi. L'eau des toilettes.
L'eau des toilettes. On vient d'entendre Edith, qui a tenu à garder l'anonymat pour ce documentaire que vous avez réalisé, Émérence Dubas. Elle a été placée dans cette maison de correction en 1933. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, alors Edith est la doyenne du film. Elle a été placée en 1933 et dans la section des préservées, c'est-à-dire des orphelines. Elle a été placée avec sa sœur qui avait 2 ans de plus qu'elle. Et voilà, elle raconte dans le film les conditions de la vie à l'intérieur. Il se trouve que...
Bourges, au Bon Pasteur de Bourges.
Voilà, en fait, elle a été placée au Bon Pasteur de Bourges, et comme c'est une dame qui n'était plus en mesure de se déplacer, je lui ai demandé de me raconter le chemin qu'elle empruntait enfant depuis la porte d'entrée jusqu'à son lit, et en traversant mentalement les espaces, elle m'a raconté la vie à l'intérieur.
Une mémoire qui est intacte plusieurs décennies après. Vous avez découvert l'histoire de ces maisons de correction par les travaux de l'historienne Véronique Blanchard, qui est avec nous aussi.
Absolument. J'ai découvert cette histoire que j'ignorais en France. Bien sûr, je connaissais le film Les Magdalene Sisters de Peter Millan, mais lorsque j'ai fait la connaissance de Véronique Blanchard et de ses travaux de recherche, ses publications, j'ai donc vu j'ai donc pris connaissance de cette histoire de placement de filles.
Ouais, dans l'imaginaire du grand public en France, on a l'impression que les pensionnats, leur lot de maltraitance, c'est un peu l'histoire des pays anglo-saxons, enfin surtout de la vieille Angleterre, Véronique Blanchard, mais ces maisons de correction, en réalité, ne sont pas des pensionnats gérés par l'éducation nationale, ni même par des normes d'éducation en France.
Et elles sont d'origine française. Ouais. C'est-à-dire que là, pour une fois, c'est l'Angleterre qui va copier le modèle français, puisque les bons pasteurs naissent en France au milieu du 19e siècle, à Angers, dans le cadre de l'intervention d'une mère supérieure, la mère Euphrasie Pelletier, qui va considérer qu'il est possible de redresser les jeunes pénitentes dans ce cadre conventuel d'une prison en charge dans des monastères qui sont des monastères à la fois religieux et carcéraux. Voilà. Et l'État français du 19e siècle va considérer que c'est le lieu par excellence pour le redressement des jeunes filles perdues. On est au 19e siècle et il ne faut pas l'oublier. Le 19e siècle est, je crois, le pire siècle pour l'émancipation de la femme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le Code civil, hein, en 1804, va réduire la femme à être celle qui reste au foyer et qui doit respecter des normes de genre extrêmement importantes. Toute jeune fille qui ne respecte pas ces règles peut se retrouver dans une institution où on se doit de les redresser.
Mais ça a perduré très largement au XXe siècle, puisqu'entre 1940 et 1980, on estime à 35 000 à 40 000 jeunes filles qui ont été placées dans cette congrégation catholique du Bon Pasteur. 80% des filles auraient subi des violences. Vous parlez de redresser des pénitentes, Véronique Blanchard. En fait, qu'est-ce qu'on reproche à ces filles très concrètement ?
On leur reproche presque, si je voulais un tout petit peu exagérer, d'être des filles. On leur reproche, si je veux être plus précise, de ne pas respecter ce qu'on attend d'une bonne fille. On leur reproche d'être pas les oies blanches, pures et vierges qu'elles se doivent d'être dans l'imaginaire social du 19e et toujours du 20e siècle. Et c'est ça qui parfois nous surprend, c'est que ces choses posées au 19e siècle sont toujours une réalité dans ce qu'on attend des jeunes filles dans les années 30, 40 et 50. La liberté d'action, de mouvement, la liberté de sortir des jeunes filles dans les années 1950 n'est pas acquise et toute jeune fille qui ne respecte pas ce que lui demandent ses parents et la société peut être effectivement considérée à un moment comme une vagabonde à protéger ou comme une jeune fille déviante à qui il faut redonner le cadre de ce qu'on attend d'elle.
Mais par quel processus on a eu ces milieux de jeunes filles enfermées sans infraction pénale, il faut bien le rappeler. C'était la demande des parents, c'était des déplacements par des juges.
Oui, on est dans un cadre légal, bien sûr, dans un cadre légal qui va organiser dès le 19e siècle, la spécificité, ça en est une aussi, de la justice dite des mineurs, qui s'installe réellement avec l'ordonnance de février 45 que vous avez citée tout à l'heure. Et donc, on a un cadre légal de jeunes filles et de jeunes gens qui peuvent être prises en charge dans le cadre de leur protection. Donc, par exemple, parce qu'un père de famille a de graves mécontentements vis-à-vis de son enfant et va demander le placement de sa fille ou de son fils, parce qu'une jeune fille, plus qu'un garçon, sort tard dans la rue, ne rentre pas aux heures indiquées, flirte avec des garçons. Il pourrait y avoir alors une protection en vagabondage qui permettra le placement de cet enfant. Et il peut y avoir aussi, et c'est intéressant quand même de le dire, des jeunes filles qui commettent des infractions à la loi, mais on se rend compte dans les archives que ce ne sont pas ces infractions à la loi qui dérange la société. Ce qui dérange la société, c'est ce qu'elles sont, pas ce qu'elles font. Donc les garçons sont là dans le cadre de la délinquance, les jeunes filles ont oublié leur délinquance pour mettre en avant leur déviance.
Et les garçons n'étaient pas placés dans des établissements de congrégations religieuses, contrairement aux filles. Parce que là, pourquoi c'est pas l'État qui les prend en charge ? Pourquoi ce sont pas des établissements publics, mais des congrégations religieuses ?
Donc, c'est l'importance de l'histoire et c'est l'importance de connaître l'histoire. Au départ, ce sont à la fois des institutions publiques et des institutions religieuses qui prennent en charge les garçons et les filles. Et puis très vite, comme vous le savez, séparation de l'Église et de l'État, les garçons vont être retirés aux institutions religieuses. En revanche, pour les filles, on pense réellement que les sœurs ont la capacité de redresser ces corps malins. On pourrait presque utiliser ce terme. Il s'agit vraiment de remettre en selle ces jeunes filles dans la pureté de leur âme. Et donc, on va laisser les jeunes filles, bien après la séparation de l'Église et l'État, à ces congrégations religieuses, parce qu'on considère que c'était elles qui sont compétentes pour faire ce travail de redressement, de rééducation. Les termes vont changer, hein. Il faut aussi faire attention à ce qu'on dit. Bien sûr que pour aller vite, on peut parler de maisons de correction, mais après 1945, on n'est plus dans des maisons de correction, on est dans des institutions, des internats de rééducation de jeunes filles.
Oui, puisque l'ordonnance de 1945, il faut le rappeler, hein, les principes essentiels, c'est la protection, l'assistance, la surveillance et l'éducation. Écoutez le témoignage de Michel, elle vivait au Maroc avec sa mère qui la battait. Elle a été placée à 15 ans, on est en 1955, c'est-à-dire 10 ans après l'ordonnance de 1945 sur la protection des mineurs.
Monsieur, je désirerais mettre ma fille Michel, âgée de 15 ans, dans votre établissement pour les raisons suivantes. C'est une enfant dont on ne peut rien tirer, à laquelle il faut une surveillance constante. Est-ce que je peux gloser sur ce qu'elle écrit ? Parce que tous les jeudis, tous les dimanches, je travaillais à faire du raccommodage, à faire tout ce qu'il y avait à faire à la maison. La surveillance constante, elle me laissait toujours seule avec mes petites sœurs à la maison. C'est des petites choses, ça. Chose qu'il m'est très difficile de faire, ayant deux autres filles âgées de 6 et 3 ans. Et mon mari est actuellement en Indochine. Elle termine son année de 5e au collège technique de Marrakech, où j'habite depuis 3 ans, avec un blâme et une exclusion temporaire de 8 jours. D'autre part, j'ai appris qu'elle a manqué la classe pour aller se baigner, et elle a envers moi une attitude très insolente. Aussi, je ne vois pas d'autre solution. Elle dit que j'ai une attitude très insolente, mais c'est moi qui partais au lycée avec des bleus de partout, habillée comme une... moins que rien, sans avoir rien pour écrire et pour étudier. J'avais aucun livre, j'avais aucun cahier. C'était ma voisine, une petite juive qui était à côté de moi, Thérèse, qui m'achetait un cahier de temps en temps. Et là, 2 jours après, voilà, ça y est, je suis acceptée.
Voilà, aussi simple que cela, se débarrasser de son enfant en 1955 avec une lettre bien tournée. D'autres ont été placés par des juges. C'est le cas de Fabienne, placée à 14 ans par le juge des enfants au refuge de la Charité de Toulouse. Donc on est en 1970, elle est née sous X.
Ma naissance. Déjà que je sois là et que je sois vivante, c'est déjà un petit miracle. Dès la naissance, ça partait pas bien. Je suis née à l'hospice Saint-Vincent-de-Paul. Ma mère est partie immédiatement après ma naissance et j'étais tout de suite placée, en fait. Je sortais d'une maison d'éducation spécialisée et là, j'ai fait le saut dans la maison de correction. Et je me souviens de cette grande porte très lourde, ce sas à l'intérieur, avec la religieuse qui est derrière, ce truc à clapet, là, qu'on ouvre, qu'on ferme, truc en bois, où elle est derrière, elle ouvre, elle ferme. Je me souviens bien de ça, sur la gauche. Puis l'autre porte, et puis la religieuse qui m'accueille, puis l'arrivée au dortoir. Ça, je m'en souviens. Ce couloir, ces escaliers en pierre, ce grand dortoir, on était un dortoir de 40 filles. Je me souviens des punitions collectives. Ah, les punitions collectives. Bon, en même temps, c'est ce qui m'a préparée aux difficultés que j'ai dû rencontrer une fois que j'étais sortie. Les punitions collectives, en fait, c'était la bastonnade. Ça, c'est que c'est pas si grave en même temps. Parce que quand tout le monde prend la même punition, étant donné qu'en plus, on n'avait pas du tout de rapport, on n'avait pas du tout d'affect avec les religieuses. Donc, on était très solidaires les unes des autres. Et s'il y avait autant de punitions collectives, c'est parce que personne ne dénonçait personne. Et il y avait cette force du groupe. Puis je pense que s'il y en avait une qui avait la lâcheté de dénoncer les autres, elle n'aurait pas eu la bastonnade, mais elle aurait pris cher dans un coin. Donc, de toute façon, soit la peur de dénoncer, soit la solidarité pour chacun, personne ne dénonçait personne. La punition collective, la bastonnade, c'est-à-dire que tu étais en chemise de nuit, on avait toutes les mêmes chemises de nuit, tu soulevais toi-même ta chemise de nuit, tu te couchais sur la traverse de ton lit, tu avais une religieuse qui te tenait les mains au-dessus, tu en avais une deuxième qui te mettait les coups de bâton sur les fesses, et puis tu avais la troisième qui surveillait le dortoir. Sur le moment, ça paraît très très violent, mais en fait, c'est des expériences de vie qui te permettent de t'endurcir. Parce que quand tu passes la première à la bastonnade, quand tu passes la quatrième à la bastonnade ou la cinquième encore, ça va, Mais quand tu passes en 15e ou en 16e position, que tu vois toutes les autres ou pleurer, ou qui ont braillé, ou qui... Oh, pff, là, t'as mal aux fesses avant grande touche.
Voilà un extrait de votre documentaire, Émérence Dubas, Mauvaise fille. Cette violence, vous avez voulu démontrer par les témoignages de ces femmes qu'elle repose sur un système.
Absolument, c'est un système qui est, et Evelyne le raconte très bien à la fin du film, c'est, elle le dit, je reprends ses mots, l'État plaçait les filles et les religieuses faisaient le sale travail. Il faut comprendre que le bon pasteur dont la maison mère est à Angers, et comme l'expliquait Véronique Blanchard, a essaimé partout en France. Il y avait beaucoup d'établissements dans bon nombre de villes françaises. Et donc, l'État plaçait les filles dans ces congrégations religieuses et la société, tout le monde connaissait ces établissements sans pour autant se renseigner sur ce qui se passait à l'intérieur. Et à l'occasion de la sortie du film, j'anime beaucoup de débats et c'est passionnant parce que beaucoup de femmes me disent, je n'étais des femmes contemporaines, des femmes du film, et qui me disent, je n'étais pas en maison de correction, mais j'étais scolarisée dans des écoles catholiques avec cette pression autour du corps, sur le contrôle du corps, la sexualité du corps, et avec cette remarque qui revenait très souvent, si tu n'es pas sage, on va t'envoyer au bon pasteur.
Il n'y avait pas de contrôle de l'État, Véronique Blanchard, sur ces maisons de correction ?
Alors, peut-être avant de répondre à cette question, rebondir sur ce que vient de dire Émérence Dubas, sur l'importance qu'il y a, et qui est vraiment au centre de mes travaux, de réfléchir, d'agrandir la focale un peu, et de réfléchir à ce que cette histoire, c'est aussi une histoire sociétale, c'est-à-dire comment on regarde les jeunes filles qui réclament quoi, en fait ? De la liberté, de l'égalité avec les garçons, pouvoir sortir, aller à Saint-Germain-des-Prés quand on est à Paris,
et
en tout cas.
D'être considéré comme une personne.
Exactement, c'est ça qu'elle revendique pour certaines, et c'est ça qui n'est pas supportable encore dans la France des années 50 et 60. Et c'est quand même très important d'avoir en tête qu'il s'agit d'une demande sociale de l'enfermement des jeunes filles. Voilà, donc c'est beaucoup plus qu'une histoire de bon pasteur ou de justice, c'est une histoire sociale. Et c'est comme ça que j'ai écrit, c'est ce que j'ai trouvé dans mes recherches et dans mes archives, et c'est ce que je trouve qu'Émérence montre merveilleusement bien dans le film. Il y a beaucoup d'émotions, il y a une place enfin donnée à la parole de ces femmes, mais il y a aussi ce regard en dessus pour dire tout ça, c'est une histoire globale dans l'histoire des femmes.
Voilà. Sur la violence, sur cette violence systémique, est-ce qu'il s'agissait finalement d'une méconnaissance totale des besoins élémentaires des enfants, des filles, ou d'une volonté d'endurcir de futurs adultes, d'anéantir de futurs adultes, et est-ce qu'il y avait un contrôle de l'État ?
Alors, ce que je peux vous donner comme réponse, c'est toujours très compliqué, il y a beaucoup de facteurs en jeu, et c'est ce qui est intéressant avec l'histoire, c'est de s'attacher aux archives et au contexte, et de remettre du contexte et des archives. Alors, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur les écrits d'un psychiatre assez reconnu, le docteur Lemoyle, qui a officié dans certaines de ces institutions. Et c'est absolument fantastique de voir le décalage qu'il y a entre ces écrits à l'intérieur de l'institution, faits pour les magistrats, et ces écrits à l'extérieur de l'institution, dans les revues spécialisées. Si vous prenez ces articles spécifiques, spécialisés, scientifiques, il a un regard extrêmement bienveillant sur les jeunes filles. Il dit qu'il faut arrêter de penser qu'elles sont toutes des prostituées, qu'il faut leur laisser une place, qu'il faut qu'elles aient une formation, qu'il est important de traiter la jeune fille à l'égal du garçon. Et puis après, vous prenez ses écrits professionnels à l'adresse des magistrats. Et là, il est dans une forme de... quel mot je pourrais utiliser ? Il est totalement pris par ces stéréotypes de genre. Et c'est à toutes ces jeunes filles, alors qu'il vient d'écrire, qu'il ne faut pas penser qu'elles sont toutes prostituées, il guette, pourchasse, montre à quel point elles sont perverses, perdues, débauchées, en danger, qu'elles vont finir à la rue. Et c'est ça qu'il adresse au magistrat, et c'est à partir de là que le magistrat prend ses décisions.
C'est-à-dire que la société lui fait finalement oublier l'évidence scientifique de ses travaux.
Exactement.
Alors, dans ces établissements, dans ces maisons de correction, évidemment, ces jeunes filles n'apprennent pas. Hein, il n'y a pas d'éducation. Il faut dire aussi que jusqu'en 59, il n'y a pas d'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans. Hein. Donc, déjà, elles sont déjà...
Il faut aussi rappeler...
Elles sont
quand
un
même
peu dans un no man's land. Hein.
Oui, il faut rappeler qu'il faut attendre 1965 pour que les femmes aient le droit d'avoir un compte chèque personnel. Et il faut attendre 1965 pour que les femmes puissent aller travailler sans demander l'autorisation de leur mari. Oui. C'est ça, hein, le
oui,
contexte.
Oui, mais la violence à l'égard des jeunes filles et des petites filles n'était pas la norme non plus dans la société, dans les familles. On est là quand même dans un système qui est assez terrifiant, qui est complètement carcéral, hein, d'ailleurs, quand on écoute les témoignages, Émérance Dubas. Il y a un mitard hein, pour ces adolescentes qui sont privées de tout, avec une nourriture au strict minimum, juste un lit. Vous avez filmé des inscriptions sur les murs de l'enfermement qui pouvaient durer des semaines, et des filles mères aussi qui accouchent. Évidemment, l'avortement n'était pas légal et il était très risqué de toute façon, et qui sont, on leur arrache immédiatement aussi leurs enfants.
Oui, absolument. Vous avez parfaitement décrit ce qui se passait à l'intérieur. Alors, je parlerai plutôt de système disciplinaire que carcéral, mais en effet, on retrouve des éléments de carcéraux, comme le mitard, par exemple, qui était la cellule d'isolement, où parfois les filles perdaient complètement la notion du temps, comme on peut l'avoir en prison.
Mais ces jeunes filles, même si elles n'allaient pas au mitard, elles étaient dans ces établissements pendant 3 ans, 4 ans, parfois même plus. Elles ne sortaient jamais de l'établissement. Il n'y avait pas de sortie.
Absolument. Alors, il y avait toujours des exceptions, quand les filles rentraient à l'intérieur d'un bon pasteur, elles sortaient à la majorité, donc 21 ans, et puis dans les années 70, c'est le cas de Fabienne, à 18 ans. Voilà.
Vous restez avec nous, on se retrouve juste après Vesco et la voix de Maïmouna Soumbounou avec le single Cynique et une hommage à la jeunesse malienne. Cynique, ça veut dire d'ailleurs demain ou avenir en Bambara. Et bien sûr, nous reparlons de cette terrible histoire des adolescentes placées dans des maisons de correction en France et les résonances aussi avec les débats de société aujourd'hui sur la condition des femmes.
Thank you.
Vous écoutez 8 milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI et aujourd'hui, au lendemain de la Journée internationale des droits de l'enfant, on s'intéresse à ces mauvaises filles, comme on les appelait, de l'après-guerre au milieu des années, à la fin des années 70, placées notamment dans des maisons de correction, notamment dans la congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, qui a connu un énorme succès au XXe siècle. Il y avait près de 350 maisons dispersées à travers le monde, donc pas seulement en France. Véronique Blanchard, vous êtes historienne spécialiste de la justice des mineurs. Vous avez publié notamment « Mauvaise fille, incorrigible et rebelle » et vous rappeliez en première partie d'émission à quel point d'ailleurs il y avait une résonance sur ces filles qui étaient placées là, non pas parce qu'elles avaient commis des délits, mais pour ce qu'elles représentaient comme danger par rapport aux bonnes mœurs, à la morale. Émérence Dubas, vous avez réalisé le documentaire « Mauvaise fille » dont on entend des extraits depuis le début de cette émission, avec des témoignages absolument poignants de femmes toujours en vie aujourd'hui. Ce documentaire sort en salle ce mercredi 23 novembre. Vous avez retrouvé ces femmes qui ont accepté de témoigner et ça n'était pas si simple.
Ici, on n'a personne à prendre dans les bras, à aimer. Ça manque, ça, dans une vie. Et puis, d'avoir aucun moment à soi, aucune intimité, aucun endroit où on se retrouve toute seule avec soi, à rien faire ou à lire ou à être tranquille, c'était pas possible.
Voilà, toutes ces femmes décrivent quand même plus ou moins la même réalité dans ces lieux d'enfermement qui ne sont pas des pensionnats pour éduquer les jeunes filles, mais bien pour redresser, pour reprendre le mot de l'historienne Véronique Blanchard. Pourquoi vous avez mis tant d'années à faire ce documentaire, Émérence Dubas ?
Alors, c'est une excellente question. En effet, moi, j'ai commencé l'écriture en 2015, donc ça fait maintenant plus de 7 ans. Et je dois dire qu'au début, je rencontrais pas beaucoup de soutien. Un film nécessite des financements. Je ne rencontrais pas beaucoup de soutien. Et je dois dire que j'ai vu une différence entre avant le mouvement MeToo en 2017 et après. Après, les institutions commencent à porter un regard intéressé sur le projet et chemin faisant, on a pu construire le plan de financement du film pour le produire.
Mais finalement, quelle résonance avec notre société d'aujourd'hui, avec l'importance donnée à la parole des femmes ?
Eh bien, je répondrai à votre question par rapport au film. Je pense que, même si j'en ai pas explicitement parlé avec les femmes, je crois qu'elles ont... En fait, si vous voulez, avant le mouvement MeToo, il y a quand même quelqu'un en commission qui m'a dit « Est-ce que ces femmes racontent toute la vérité ?» Et c'est bien pour ça qu'elles n'ont jamais parlé, c'est qu'il n'y avait pas d'espace public pour les entendre. Et je crois que, même, encore une fois, si on n'a pas parlé explicitement ensemble du mouvement MeToo, je pense qu'elles ont senti que la société était en mesure, en capacité de les entendre. Et par ailleurs, pour certaines, elles sont au crépuscule de leur vie et donc elles n'ont plus rien à perdre. Et elles savent que leur jeunesse est consignée dans des archives judiciaires et elles veulent rétablir la vérité. Et c'est bien d'ailleurs l'enjeu de la séquence quand Evelyne consulte son dossier de placement, c'est-à-dire qu'elle commente le regard que l'institution portait sur elle.
Avec des évaluations qui sont évidemment très dures.
Oui, des évaluations qui sont très dures. Et puis j'aimerais rebondir sur ce que dit Émérence Dubas, parce que je pense que c'est très important et c'est la force de son film. Elles ont enfin la parole et elles la prennent. Et c'est un long chemin que de prendre la parole quand on a été étiquetée comme mauvaise fille. On n'enlève pas l'étiquette comme ça. Et ces femmes, pour en avoir aussi rencontré dans mon travail, même si moi j'ai essentiellement travaillé sur des archives, elles ont eu à gérer cette question d'être une mauvaise fille. Et c'est très important, puisque je crois savoir qu'Émérence Dubas, on a pu en discuter avec elle. Aujourd'hui, c'est un stigmate qu'elles utilisent pour dire que non, elles n'étaient pas des mauvaises filles. C'est la société qui les considérait comme des mauvaises filles et elles étaient bien d'autres choses. Et je pense que la force du film d'Émérence, c'est de leur donner la parole et qu'on puisse enfin les écouter.
Alors, est-ce que ces femmes disent la vérité, comme vous a dit quelqu'un ? Il y a évidemment des sources historiques sur lesquelles travaillent les historiens. Vous avez cherché aussi à retrouver les lieux. Que sont devenus physiquement ces maisons de correction ?
Alors, la maison mère à Angers existe toujours. Il y avait donc bon nombre d'établissements en France. À partir de 68, il y a des lieux qui sont vendus. Par exemple, le Bon Pasteur du Puy-en-Velay, là où a été placé Michel, est devenu la DAS, puis l'aide sociale à l'enfance. Et hormis la chapelle qu'on voit au début du film, voilà, ce sont des lieux qui représentaient, en tout cas d'un point de vue cinématographique, peu d'intérêt pour moi. Et je cherchais un lieu, en fait, archétypal, qui permet aux spectateurs d'éprouver ce que c'était que l'enfermement, qui permet d'incarner le récit des femmes. Et donc, un jour, j'ai entendu parler du Bon Pasteur de Bourges. Il est archétypal, parce qu'il est séparé de l'extérieur, séparé de la rue, de la ville, et divisé à l'intérieur. C'est un lieu labyrinthique. Il faut savoir que les filles n'avaient pas le droit de communiquer entre elles. Elles étaient obligées de se vouvoyer. Elles ne connaissaient pas les histoires des unes et des autres. Ça veut dire que...
Ni même leur nom. Pas leur prénom.
Parfois, on change le prénom des filles. Hein,
c'est voilà, ça. Parfois elles avaient des numéros, on change leur prénom. Elles étaient dans une immense solitude.
Pour éviter aussi, peut-être, des révoltes, hein, également. La maison du Bon Pasteur de Bourges, c'est une maison abandonnée qui a été vendue pour un projet immobilier. Mais vous avez pu filmer, effectivement, cette maison où vous avez retrouvé des traces, notamment des inscriptions sur les murs, hein, au mitard, quand les filles gravaient, je ne sais pas avec quoi d'ailleurs, mais peut-être la pointe d'un stylo, enfin... quelque chose pour laisser une trace. Bientôt, ces murs seront rasés, hein, puisque c'est revendu pour un projet immobilier. Et ça pose la question, effectivement, qu'il n'y a pas véritablement de lieu de mémoire de ces lieux d'enfermement. C'est pas jugé comme quelque chose digne d'intérêt, Véronique Blanchard ?
Non, pas du tout. Je pense que c'est jugé comme digne d'intérêt et il y a des lieux hein, qui racontent ces histoires de la justice des enfants. Il y a des livres aussi, il y a des travaux de chercheurs. Et puis heureusement, aujourd'hui, il y a une réalisatrice et ce film. Je pense que c'est un long chemin aussi que ce chemin du travail historique pour reprendre sur la question de la vérité. Je pense que l'histoire a de nombreuses sources, hein, les sources archivistiques, les sources orales. Aujourd'hui, il y a une historienne qui prépare son doctorat, Amélie Rabine, pour ne pas la citer, qui va travailler à partir des sources orales. Moi, j'ai travaillé à partir des sources écrites, comme David Niger, qui a pu, même si c'est compliqué, accéder à certaines archives du Bon Pasteur. Donc, on a beaucoup d'éléments hein, pour réfléchir de manière scientifique et historique à cette question.
Alors, à la sortie, quand les filles retrouvent enfin leur liberté après avoir manqué de tout, que se passait-il ? Fabienne se souvient, c'était au milieu des années 70.
Il y a des jeunes qui s'occupent des réseaux de la prostitution, qui surveillent les sorties. Parce qu'on sait que quand une fille sort de cet établissement, c'est une fille qui sort seule, sans famille, sans protection. Donc, ce n'est pas des vieux, c'est des jeunes qui travaillent pour les vieux patrons de la prostitution qui, eux, ont tous des restaurants, bistrots dans Toulouse. Et donc forcément, t'as été repéré, t'as été suivi, et donc tu rencontres un garçon sympathique. Comme t'as toujours été en dortoir, que jamais t'as été une personne en tant que telle, mais toujours un élément d'un groupe. Donc le premier garçon qui pose ses yeux sur toi et qui te porte de l'attention, en plus t'as un retard affectif conséquent, donc t'as beaucoup d'amour à donner, quoi. Et là... C'est le commencement des problèmes. C'est le commencement des problèmes. Au début, le garçon, il est gentil comme tout, bien sûr. Le temps que tu tombes amoureuse. Puis, il m'a emmenée dans une chambre. Je crois que c'était dans une cité HLM. Et puis, il y a plein de garçons qui sont rentrés dans la chambre. Donc là, moi, j'ai voulu me protéger avec le drap. Mais non, il a enlevé le drap pour m'offrir nue à tous ces garçons qui étaient là avec une bouteille de cognac et qui riaient, qui fumaient. On voulait m'obliger à fumer. Je ne fumais pas. Je ne voulais pas. Commençait à me verser du cognac sur le corps. Tous ces garçons riaient, se moquaient de moi. Mes habits avaient disparu. Je ne sais pas combien de temps a duré cette situation. Puis après, le garçon qui était supposé être mon amoureux m'a jeté mes vêtements sur le lit. Il est parti avec les autres. Puis celui-là, je ne l'ai plus revu. Puis l'histoire était terminée. Et puis moi, j'ai continué à aller travailler. Puis j'ai rencontré un autre garçon. Et à nouveau, histoire d'amour. Puis là, c'est autre chose. Là, c'est franchement le viol. J'en ai eu quelques-uns des viols, j'en ai eu beaucoup. Et ça a été graduel. Donc j'ai eu droit à une tournante, j'ai vécu des moments difficiles, très très difficiles, mais toujours en pensant qu'à chaque fois que je rencontrais un garçon, c'était qu'il n'y avait pas de lien. Et c'est arrivé que je rencontre un garçon, puis je me rends compte qu'en fait il connaissait un autre, en fait je retrouvais un que j'avais connu avant, qui se retrouvait dans la même bande de copains. Et j'ai vécu des trucs durs, vraiment durs à cette période-là. Pendant un an, j'ai été un objet sexuel. J'ai été un objet sexuel.
Voilà, c'est le témoignage de Fabienne. Des filles faciles, clairement identifiées par les réseaux de prostitution. En réalité, des filles brisées d'un point de vue psychique, Émérance Dubas.
Brisées d'un point de vue psychique et concrètement...
Et affectif.
Affectif. Et concrètement, quand les filles sortent à leur majorité, elles n'ont pas de famille. Et il faut trouver du travail, s'organiser, manger le soir.
Alors, elles ne sont pas toutes orphelines, hein, mais elles ont été placées là et clairement un peu oubliées par leurs parents.
Alors, oublier, ça dépend bien sûr. Toutes les situations sont différentes et variées. C'est ce que montrent d'ailleurs les témoignages que Émérance a récoltés. Mais oui, il y a des jeunes filles qui n'ont plus de contact avec leurs parents. Comme Émérance l'a dit, on peut être placé 3, 4, 5 ans et on peut perdre contact avec ses parents.
Quelles sont les conséquences pour ensuite construire leur famille en tant que mère? Parce que toutes ces femmes que vous avez rencontrées, d'ailleurs, elles ont toutes construites, elles ont toutes eu des enfants.
Alors oui, et elles ont. Alors il se trouve que le film dresse des portraits croisés de quatre femmes qui se connaissent pas et qui ont qui partagent une histoire commune, celle d'avoir été en maison de correction et à des moments différents, puisque Edith a été placée en 1933, Michel a été placé dans les années 50, Evelyne dans les années 60, ainsi que Marie-Christine et Fabienne qui est sortie en 74. Donc c'est quand même un film qui dresse une fresque, et malgré la singularité des parcours, malgré les âges qui sont différents et malgré les personnalités, en effet, il y a quelque chose de commun chez ces femmes, c'est cette difficulté à toutes me l'ont dit, cette difficulté à élever ses enfants quand on a si peu reçu.
Et en même temps, un courage et une résilience absolument incroyables.
Alors la résilience, on en parle beaucoup et moi c'est voilà, je pense que on parle aussi beaucoup de reconstruction. Je dois dire que je sais pas si on se reconstruit, on fait avec. Et ces femmes, elles ont tracé leur chemin tant bien que mal et elles ont il fallait aller de l'avant parce qu'il fallait voilà, il fallait vivre. Donc
comme Evelyne et Fabienne le disent, et je trouve que moi c'est une des choses qui m'a beaucoup marqué dans le film, elles sont des combattantes.
Des voilà, guerrières.
Des guerrières.
Alors pourquoi accepter de parler tant d'années après? Ça a été évidemment un long travail de votre part hein, en tant que documentariste, Émérine Dubas. Mais je voudrais qu'on écoute la réponse d'Edith.
Quoi faire aujourd'hui? Et quoi faire à l'époque? Parce qu'on ne s'intéressait pas à nous. On était des objets autrefois. On n'était pas grand-chose. Hein. Les enfants comme nous. Je vous fais peut-être de la peine, mais c'est quelque chose qui s'en va. Aujourd'hui, je me guéris, tout doucement. Je suis obligée. Je me dis, il est temps, parce que toi, tu vas partir à ton tour. Il est temps de te guérir. Et justement, je suis contente que vous soyez passée, parce qu'il restera des traces de cette vie de chien.
Des traces de cette vie de chien pour ces filles qui étaient des enfants à l'époque, hein, Votre documentaire, Émérance Dubas, a eu quel effet dans le débat public, puisqu'il y a déjà eu des projections, notamment auprès des professionnels de la protection de l'enfance, des gens qui se sentent concernés par tous ces problèmes-là?
En tout cas, la réaction en salle, elle est intense. Très vivante. Il y a une sorte de catharsis qui est liée à la projection de ce film. Beaucoup d'échanges. C'est surtout beaucoup de femmes prennent la parole et racontent l'histoire de leur mère, leur propre histoire.
Aujourd'hui, certaines de ces femmes se sont constituées en association. hein, des femmes qui ont été donc dans ces maisons de correction, et elle demande des réparations pour trois préjudices. Le préjudice culturel, puisque absence d'éducation, et non, strictement rien appris. Préjudice social, travail non rémunéré, puisqu'elle faisait beaucoup de travaux d'aiguille, hein, de la broderie pour livrer en ville. Évidemment, elle ne sortait jamais, mais c'était bien donc des travaux qui étaient rémunérés, elles n'ont jamais rien touché. Et préjudice médical aussi, bien évidemment, les séquelles psychologiques que vous évoquiez. Pour l'instant, où est-ce qu'on en est ? Il y a une commission d'enquête, il y a un petit intérêt des pouvoirs publics.
Alors, on est au début, en fait. En effet, Evelyne Lebris, qui est donc l'une des quatre femmes du film, est présidente d'une association avec Marie-Christine. Elle s'inspire du modèle des femmes irlandaises. Vous savez que l'État irlandais a demandé pardon il y a un an et demi, ce qui est absolument historique. Et donc, elles ont pris conseil avec un cabinet d'avocats dirigé par Franck Berton. Et donc, il y a prescription, mais l'enjeu, en effet, aujourd'hui, est de monter une commission d'enquête parlementaire. C'est en cours. C'est le début.
Est-ce
d'une
que,
reconnaissance.
D'une reconnaissance, d'excuses publiques. Il y a un site australien aussi d'une congrégation religieuse. Est-ce que c'est aussi le Bon Pasteur ou une autre, je ne me souviens plus. Mais où sur le site apparaissent directement des excuses aux jeunes filles qui ont été placées dans cette congrégation. Est-ce que c'est quelque chose qui va se généraliser? Est-ce que des indemnités aussi sont possibles tant d'années après?
Alors là, moi, je ne suis absolument pas dans la capacité de répondre. Je suis assez performante pour le passé, moins pour l'avenir. Mais par contre, je pense que le film d'Émérance et l'association des anciennes vont poursuivre dans cette voie-là.
Émérance Dubas, c'est clair que la maltraitance dont font l'objet ces femmes, c'est effectivement c'est une politique disciplinaire qui est... complètement extrême. Hein. Aujourd'hui, on est au lendemain de la Journée mondiale des droits de l'enfant. On a le sentiment que l'aide sociale à l'enfance, que la justice, la protection des mineurs, bien sûr, ne souffrent pas de cette discipline extrême, mais plutôt d'une forme de déshérence, de manque de financement. C'est ce que disent les professionnels. Est-ce que quand votre film est projeté, est-ce que ça arrive aussi dans le débat ?
Pour l'instant, non, mais on est au début des premières projections du film. Mais je pense qu'en effet, ce film peut tout à fait faire débat. Et en tout cas, ce que je peux vous dire en tant que cinéaste, c'est que quand j'ai rencontré Fabienne, eh bien, ça a été sa motivation première de participer au film, c'est-à-dire qu'elle souhaitait témoigner pour la jeune génération, pour les filles en situation difficile aujourd'hui, pour les filles qui sortent.
Ouais. On n'a pas encore vraiment dit que, bien évidemment, il y avait aussi quand même une justice de classe. Hein. Ces jeunes filles, elles arrivaient dans ces maisons de correction, certes parce qu'elles ne remplissaient pas les normes sociales, les normes morales que vous évoquiez. Néanmoins, Véronique Blanchard, c'était pas des filles de tous les milieux.
Non, vous avez totalement raison et c'est très important de le dire. Émérance l'a glissé tout à l'heure. On a affaire aussi à une emprise de classe et à une correction de classe et à un regard de classe. C'est-à-dire que c'est vraiment les milieux... Au 19e siècle, on parle de classe laborieuse. Au milieu du 20e siècle, on parle de classe populaire. Dans mes études, dans mes recherches, dans le Paris des années 50 et de sa périphérie, c'est vraiment les classes populaires qui sont prises en charge dans ce cadre-là du redressement et de la correction, puis au fil du temps de la rééducation. Oui, oui, on est bien, on peut même dire, je crois, sans que ça fasse hurler qui que ce soit, qu'on est au croisement d'une justice de genre, de classe et de race, avec des guillemets, puisque c'est aussi, à certains moments, plus pour les garçons dans la période que pour les filles, une organisation disciplinaire de l'autre, de l'altérité, et par exemple de jeunes maghrébins qui arrivent en France et qui vont être aussi pris en charge dans ce type d'institution.
Aujourd'hui,
oui. Et j'ajouterais d'ailleurs qu'il y a aussi, avec les dominations que pluriel que vient d'indiquer Véronique Blanchard, une domination de l'adulte sur l'enfant.
Une domination de l'adulte sur l'enfant, malgré l'ordonnance de 1945 qui dit bien que quand un enfant a commis un acte répréhensible sur le plan pénal, bien évidemment, il faut punir, mais il faut aussi protéger. Parce que, justement, ce sont des enfants.
C'est un long chemin, Emmanuel Bastide, c'est un long chemin. Le 3 février 1945, tout n'a pas changé dans l'organisation de la prise en charge des enfants en difficulté. Et en 1945, on sort de plus de 100, 150 ans d'histoire de maisons de correction, très disciplinaires, comme l'a démontré, par exemple, Michel Foucault. On sort aussi de l'idée des années 30, années 20-30, du criminel né. Et donc, bien sûr que ça ne va pas être un claquement de doigts qui va permettre de modifier la structure de certaines de ces institutions. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir des années 50 et 60, les professionnels vont se former, vont avoir des écoles, vont avoir des formations pluridisciplinaires et l'engagement des travailleurs sociaux va considérablement se modifier avec les années 70 et il y aura une adéquation beaucoup plus forte entre l'ordonnance de 45 et le vécu des institutions et de ce qui se passe dans les pratiques à partir des années 70.
Même s'il y a encore beaucoup de travail et s'il manque beaucoup de financement pour protéger les mineurs. Merci en tout cas à vous. Emmerance Dubas, votre documentaire Mauvaise Fille sort en salle donc publiquement ce mercredi 23 novembre. Véronique Blanchard, merci à vous. Vous avez publié notamment Mauvaise Fille, incorrigible et rebelle avec l'historien David Niger et c'est aux éditions textuelles. Merci à vous. Dans quelques instants, le journal, on se quitte avec Yendri.
Sigo corriendo, cerca de un fuego, me quedo quemada. Sé que eres tú, te fuiste temprano, pero sé que siempre te tengo a mi lado. No me quedo nada, si pudiera yo volver para atrás. Es que el tiempo se me va y nada, me acuerdo la luz de tu mirada. Los angelitos te mando, nena. Lo pido al cielo, le pido, nena. Los angelitos te mando, nena. Le pido al cielo, le pido, le pido. No me quedo nada, si pudiera yo volver para atrás. Es que el tiempo se me va y nada. Los angelitos te mando, nena. Lo pido al cielo, le pido, nena. Los angelitos te mando, nena. Le pido al cielo, le pido, le pido.
8 milliards de voisins, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr demain avec l'équipe Damien Roucou, Zainaba Diallo, Divine Bertou, Romain Dubrac. Et bien sûr, n'oubliez pas, les voisines et les voisins, de télécharger les émissions que vous avez manquées. Tous les sujets sont annoncés sur les plateformes de téléchargement. Dans une minute, le journal sur RFI.